On a un invité spécial en studio. Du fait qu'il est président de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Masquinongée, mais il est aussi directeur stratégique d'affaires chez Meubles Canadel, une véritable institution. Monsieur Jean-Philippe Deveau, re-bienvenue, mais habituellement c'est au téléphone, mais là on est en studio, c'est encore mieux.
Ben oui, merci de l'invitation.
Jean-Philippe Deveau, à titre de président de la Chambre, si vous aviez à tracer, si on veut, les grands moments de la Chambre, je vous dirais depuis le début de 2026 jusqu'à aujourd'hui, comment vous résumeriez ça dans vos mots?
Bien, il y a eu trois gros éléments qui ont marqué la Chambre cette année. On a eu le Festival de la Galette. On a quand même eu là un mot à donner là-dedans pour un peu là, s'assurer que tout le monde puisse discuter et d'être en mesure d'avoir une édition. Enfin, ça a été quelque chose là, qui était quand même un fait marquant de l'année. L'autre gros point, on a été étonnamment là, surpris, mais ça a été toute la portion avec les gens qui viennent travailler de l'extérieur, puis que là, le gouvernement fédéral voulait venir justement le couper. On a été pas mal impliqués là-dedans, puis ça a été là, surprenant de voir là. Au début, on s'attendait à rien d'une certaine manière, mais ça a pris une ampleur un peu disproportionnée. On était beaucoup sollicités dans les différents médias. Donc ça aussi, ça a été là, quelque chose qui nous a mis sur la map. Puis moi, je vous dirais, tu sais, le gros fait marquant, c'est pas facile les chambres de commerce en général, à part là, quand on oublie les grosses chambres. C'est justement le repositionnement de la Chambre. Je ne sais pas, vous avez des échos au niveau du gala qui s'est tenu là, au mois de mars, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est justement... Chacun des événements, il faut qu'on lève la barre. Il faut qu'on soit en mesure justement d'offrir quelque chose de nouveau, de particulier pour justement favoriser l'essor de la Chambre. Puis en même temps que les gens veulent nous suivre, veulent travailler avec nous autres. Autrement, ça devient difficile justement la survie de la Chambre. Donc, on travaille très fort cette année avec l'équipe en place pour justement là, aider à l'essor pour que les gens disent « Hey, je veux faire partie de la Chambre, ça fait partie de quelque chose que j'ai de besoin là, pour là, mes activités. »
Est-ce qu'on parle, Jean-Philippe, vraiment de rétention des membres? On est-tu rendu là? Ou...
La rétention des membres va super bien, mais c'est comme n'importe quoi. La difficulté d'une chambre de commerce, c'est que ça reste que c'est un OBNL. Présentement, les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a une portion du financement qui provient de la SAQ. Mais on ne sera pas de cachette. Avec qu'est-ce qu'on a vécu avec les SAQ Click, au début, on anticipait beaucoup plus des baisses de revenus. Mais finalement, ça a été l'inverse avec le fiasco qu'on a vécu. Mais nous, il faut quand même se préparer à ça. On n'a pas un gouvernement présentement qui aide les chambres de commerce. Puis ça se trouve à être un... On ne sait plus vraiment comment se positionner parce qu'il y a quand même beaucoup de bébites qui existent. Il faut s'assurer justement de trouver notre créneau pour être en mesure d'aider les gens. Sinon, on n'a plus vraiment notre place. Donc, comment qu'on fait justement pour se démarquer puis être en mesure d'aider la communauté pour justement là, la croissance économique de la région?
Avez-vous vu, j'imagine, vous en avez entendu parler, c'est certain, de ce que font vos semblables à travers le Québec dans des villes, dans des régions surtout, comment ils s'y prennent? Qu'est-ce qu'ils font en commun d'après vous? Là?
Bien, c'est sûr, les grandes chambres, plus souvent qu'autrement, eux autres, c'est, je dirais pas plus simple, mais il y a souvent des plus gros bailleurs de fonds, donc déjà là, ça l'aide. T'sais, si on prend l'exemple de Trois-Rivières, il y a toutes sortes d'activités aussi qui existent qui lui permettent justement de renflouer les coffres beaucoup plus rapidement. On ne sera pas de cachette, là. Juste le gala, on est limité par le nombre d'espaces, de gens qu'on peut inviter à l'escale. Donc, automatiquement, c'est sûr qu'on ne peut pas... si, mettons, on aurait 100 personnes de plus, ce serait des revenus de plus. Mais là, on n'a pas cet accès-là comparativement à Trois-Rivières. Que là, tu as des salles plus grandes. Donc, automatiquement, tu as accès à un peu plus de volume. Donc, ça, c'est un exemple. Mais sinon, tu sais, la majorité des chambres, c'est financé via les SAQ. Mais il y a aussi là, d'autres activités qui permettent de venir financer. Fait qu'on est en constante communication avec les chambres, je dirais moyennes chambres, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils font. Mais tu sais, tout le monde est un peu dans le même bateau là-dedans. Tout le monde cherche des sources de revenus supplémentaires. Puis c'est un gros défi pour tout le monde parce que les gens demandent plus, ce qui est normal. Mais malheureusement, les fonds sont difficiles à aller chercher. Donc, comment on peut faire pour trouver un équilibre là-dedans pour s'assurer d'offrir un bon produit puis que les gens vont vouloir justement continuer à participer aux activités de la chambre?
Vous avez là tout un défi. Oui, c'est vrai. Alors, il n'est pas question, comme vous dites, de rétention des membres. C'est de faire des choses à la hauteur de vos attentes pour rendre les membres vraiment heureux et se sentir appuyés.
Oui, parce que la rétention des membres va super bien présentement. On a une super de bonne réponse. Tout le monde semble satisfait. Mais c'est comme n'importe quoi, à un moment donné, il y a un bassin. Même si on dit qu'on va avoir 1000 membres, ben, s'il n'y a pas 1000 entreprises dans la région, on ne peut pas. Fait qu'on est un peu limité par ça. Donc, la rétention des membres va bien, mais tout le monde a une limite de payer. Fait qu'on ne pourrait pas dire on double le membership ou quoi que ce soit. Donc, comment qu'on fait pour aller chercher des revenus supplémentaires pour être en mesure d'en offrir plus à nos membres? C'est ça qui est le défi, puis c'est là-dessus qu'on on travaille pour justement là, être en mesure là, d'offrir un produit que les gens vont adhérer.
Oui. Combien vous aviez de membres environ, M. Debout, à peu près?
Là, on est aux alentours à peu près là, 275 membres, peut-être.
Oui, dans la MRC.
Environ, oui.
Hein, ça?
Oui.
À part ça, est-ce que vous aviez d'autres choses qui a marqué l'année au niveau des membres? Les tarifs, on disait, ben, on n'a pas tellement été touché ici par ça, petite entreprise surtout, peut-être quelques moyennes, mais...
Je pense que les tarifs, quand on regarde qu'est-ce qui se passe, on n'a pas encore le plein impact de ce qui se passe. Donc, on va peut-être plus le voir cet automne. T'sais, on parle de récession technique, mais t'sais, toutes ces mesures-là prennent du temps. Donc, je pense que c'est plus cet automne qu'on va commencer à avoir un petit peu plus le réel impact de tout ça. On regarde le gouvernement canadien qui veut diversifier. T'sais, là, on parlait d'une récession technique. Là, on dit non, le PIB semble augmenter pour les prochains mois.
Oui.
Moi, je m'attends à ce que, justement, là, c'est plus à l'automne qu'on peut-être là, on va le ressentir un petit peu plus. Puis, tu sais, il ne faut pas se faire de cachette. On dit que les plus petits joueurs ne sont pas touchés, mais c'est un écosystème, tout ça. Là. C'est les gros donneurs d'ordre qui sont touchés, mais après ça, c'est toute la sous-traitance qui va être touchée par après de différentes manières. Donc, comment ça va se répercuter pour les entreprises ici, les petites et les moyennes entreprises? C'est un petit peu difficile parce que ça dépend à qui ils vendent. C'est sûr que si le gros donneur d'ordre va aux États-Unis, ben, ils vont être un petit peu touchés, mais c'est sûr que si le donneur d'ordre est au Canada, au niveau de ses ventes, ben, il va être un peu moins touché. Fait que ça va être intéressant de voir comment ça va se développer là, dans les prochaines semaines, prochains mois.
Oui. Jean-Philippe, je vous amène maintenant, on va enlever le chapeau de président de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC. Et là, ben, je le disais tantôt, vous êtes directeur stratégique d'affaires chez Canadel. Jusqu'à présent, là, vous êtes un gros joueur, c'est ainsi dans le domaine du meuble, vous avez des meubles en bois, des structures en bois. Comment ça va en ce moment avec tout ça? Vous sembliez, les dernières fois qu'on s'est parlé, bien vous adapter, somme toute, jusqu'à présent.
L'adaptation va bien. Est-ce qu'on voudrait avoir plus de commandes? La réponse, c'est oui. Mais quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, on ne peut pas se plaindre loin de là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ont eu peur quand ils ont vu ce qui s'est passé avec South Shore, avec Bestar. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'au niveau des types de produits qui sont vendus par ces entreprises-là, puis Canadel, c'est une pomme et un orange.
Ouais.
Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas mettre tous les manufacturiers de meubles dans le même bateau. Il y a différents produits qui sont offerts par différentes strates de manufacturier. Puis nous, présentement, est-ce qu'on est affecté? La réponse, c'est oui. Mais on fait nos devoirs, puis l'idée, c'est de faire continuer justement les usines puis d'aller chercher du volume supplémentaire. Donc, présentement, on a plein de projets en cours pour justement améliorer les volumes, mais c'est comme n'importe quoi. Notre environnement bouge tellement vite que c'est difficile justement. OK, il y a une baisse de volume là, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher de volume vite? Des fois, tu sais, c'est des affaires sur 3, 4, 6 mois. Donc, ça prend. Malheureusement, on voit la perte de volume un petit peu plus rapidement que la hausse. Mais la réalité concrète, on ne peut pas se plaindre, mais pas du tout quand on regarde notre circonstance comparativement là, à d'autres gros joueurs. Là, parce qu'on s'attend, on voit tous les chiffres. Là, donc, on en souhaite plus. On veut faire travailler notre monde à 40 heures semaine, ça c'est sûr, sûr, sûr. Puis c'est l'objectif là, pour l'année en cours puis les prochaines années.
Ben, je comprends. On a évidemment le Moyen-Orient, même si au moment où l'on se parle, il y a un semblant d'entente. Les Iraniens sont très, je vous dirais, très pointilleux pour l'instant et prudents. il n'ose se prononcer encore. On aurait possiblement une entente, ça reste à confirmer. Est-ce que ça va changer de quoi pour votre entreprise si jamais il y a une entente? Peut-être au niveau des frais pour le carburant et les transports et tout ça, est-ce que vous voyez une embellie si jamais on règle?
Oui, parce qu'il y a deux choses à ça. Il y a la portion, effectivement, des frais de transport, donc tous les conteneurs qui se promènent. Donc ça a créé des hausses de prix. Puis de l'autre côté, ben justement, quand on envoie les produits un peu partout, ben il y a eu des hausses de prix comme qu'on voit là à la pompe au niveau de l'automobile. L'autre gros point qui est à prendre en considération, c'est l'incertitude que ça l'amène, parce que jusque où le baril de pétrole va augmenter, puis ça va être quoi l'impact au niveau justement de combien ça va nous coûter mettre de l'essence dans notre auto? Où les gens ne réalisent pas, oui, l'essence, on la met dans l'automobile, là, mais possiblement 90% de ce qu'on touche a du pétrole. Donc,
ben oui, c'est
donc,
ça.
Donc, c'est ça qui est dangereux. Puis quand les gens, exemple, voient les hausses des produits à l'épicerie, le problème, c'est pas la fraise qui coûte plus cher, c'est à transporter.
Ouais,
donc, souvent, le gros de l'impact du coût ne provient pas du produit en tant que tel, c'est son déplacement.
Ouais.
Donc, c'est plus l'incertitude reliée à ces hausses-là que la hausse du pétrole elle-même. Donc, ça va être intéressant de voir comment tout ça va se développer. Mais on ne sera pas de cachette que M. Trump nous a habitués à des revirements de situation de tout bas, de tout côté. Donc, on ne peut pas... Je pense qu'il faut commencer à développer notre résilience puis souhaiter que son fameux mandat finisse le plus tôt possible. Parce que malheureusement, moi, je vois pas dans un horizon rapproché que tout d'un coup, les tarifs vont tomber, que la guerre en Iran, pas de problème, il va laisser tranquille Cuba. Il y a un plan en tête, puis malheureusement, ça fait souffrir toute la planète.
Là. Oui, et vous faites bien de le dire, Jean-Philippe, parce que j'entendais des spécialistes, des gens même de l'équipe de Donald Trump qui disent, écoutez, pour ceux qui pensent que les tarifs sont là pour s'en aller, c'est l'inverse. Et qui l'eût cru? Parce qu'on disait que c'était une stratégie qu'adoptent certains pays, mais temporaire, limitée. Mais là, c'est plus ça. Et même, il y a la révision de l'ACEUM où Donald Trump laissait entendre, il y a quelques jours, qu'il n'est pas tant que ça, mais pourtant, il y a beaucoup de produits qui sont liés. Canada, États-Unis, Mexique, et je crois que c'est 80-90% de produits canadiens qui, en ce moment, font partie de cet accord-là. Alors, s'il fallait qu'il recontinue pas ça, quel serait l'effet, selon vous?
Bien, on parle de la CEUM, puis tu sais, on a l'impression que c'est quelque chose qui a toujours été là, puis ça fait des années et des années. Mais la réalité concrète, c'est quand même quelque chose qui date des années 90.
Oui.
Fait que moi, ce qui était drôle, quand je parlais, tu sais, chez Canadel, qu'on regardait ça, bien, tu sais, ils ont vécu le avant l'ALENA, dans le fond. Puis ça marchait, là. Est-ce qu'il y avait des tarifs? La réponse, c'est oui, il y avait des petits tarifs. Ce qu'on sait présentement, c'est que ça a tellement été compliqué de planter tout ça. Là, c'est de voir à quel point ça va survivre au niveau des différents tribunaux. Mais la réalité concrète, c'est sûr qu'il y a des affaires qui vont perdurer dans le temps. Ça a tellement été problématique à mettre. J'ai bien de la misère à croire quand même que ce serait des démocrates ou un autre président qui va dire « Moi, j'arrache tout ça, puis on vient à ça. » Quand on tombe au niveau de la CEUM, moi, ce que je trouve particulier là-dedans, c'est que M. Trump a tendance à arriver avec une espèce de masse immense pour gérer des problèmes. Quand la réalité concrète, quand on regarde ça froidement, c'est l'aluminium, l'acier, puis l'automobile.
Oui, l'automobile,
c'est vrai. Le bois, je le mettrai un petit peu de côté, puis je vais expliquer plus loin, plus tard. L'acier, au début, je ne comprenais pas pourquoi il tapait autant sur l'acier de l'aluminium, pour après ça comprendre que l'acier d'aluminium, c'est la base de l'armement.
Oui.
Fait qu'automatiquement, ça, il n'y a pas le choix, puis ça fait du sens d'une certaine manière. La seule problématique qui ne fait pas de sens quand on regarde notre économie d'une manière plus globale, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous, avec notre énergie peu chère, ben ça fait qu'on a un aluminium et un acier qui est peu cher, parce que justement, il y a beaucoup de frais.
Effectivement.
Puis après ça, tu sais, s'il décide qu'il y a vu l'industrie automobile, on fait quoi? Il n'y a pas 25 000 solutions. C'est ça qui est bizarre, c'est de mettre tout dans le même pot. Puis après ça, quand on va au niveau du bois, ce qui est particulier, on s'entend, ça date pas de la semaine passée, là, les chicanes au niveau du bois d'œuvre.
Ah ouais, ouais.
Mais ce qui est quand même particulier, c'est que c'est de la géographie de quatrième année, cette affaire-là. La réalité concrète, ouais. Là, le 2x4, il y en a pas mal plus au Canada qu'en aux États-Unis. Fait que je peux comprendre qu'ils veulent peut-être ouais. en produire plus, puis que peut-être qu'à cause de notre mécanique de CAF et ainsi de suite, il y a peut-être une forme de subvention. Ça, je peux le comprendre. Mais la réalité concrète, on en a beaucoup plus qu'eux autres à cause de la géographie. Puis ce qui est drôle, nous, notre bois, on achète le feuillu, il vient des États-Unis, là. Il vient pas du Québec, parce que justement, les forêts de feuillus sont beaucoup plus au sud. Donc, c'est ça, à un moment donné, tu regardes ça froidement de l'extérieur, puis OK, je comprends le principe d'économie et ainsi de suite, mais tu fais comme moi, mais c'est géographique, non. On en a plus.
Oui.
Ça, c'est sûr. Si t'es capable d'être autosuffisant, tant mieux. Mais la réalité concrète, ils se mettent des tarifs eux-mêmes, puis ils ont réussi pareil à en vendre autant.
Oui.
Donc, c'est quand même particulier tout ça, là.
C'est vrai. Et on l'oublie, on va terminer que ça pour l'entrevue, Jean-Philippe. Les Américains commencent à en avoir leur quota, là. Et on le voit, il y a beaucoup d'échos qui nourrissent tout ça sur le terrain, qui font le relais. Prix de l'essence, l'inflation et de tout, dans le fond. Comme on disait tantôt, quand l'essence monte, eh bien, ça se répercute partout dans ce qu'on achète. Pas évident, là.
Non.
C'est eux qui écopent, puis...
C'est eux qui écopent, ouais. Ce qui est quand même particulier, parce qu'on est en contact avec des Américains là, régulièrement, oui. C'est de voir... un peu leurs incompréhensions vis-à-vis de tout ça, puis de s'abreuver des paroles d'un gars en comprenant plus ou moins ce qui se passe, parce qu'on ne sort pas de cachette, là. Quand on regarde ça froidement, ils disent qu'il y a 67% de désapprobation de Donald Trump, mais quand on regarde au volume qu'ils sont, il y en a quand même 100 millions qui sont d'accord avec ce qu'il fait, là.
Ben oui, c'est fait ça.
Là, tu as ce 100 millions-là qui est acquis, mais après ça, là, dans le 200 millions restants, il y en a quand même là-dedans qu'eux autres, ils disent... Moi, le tarif, si c'est, j'en ai plus dans mes poches, ça fait du sens en comprenant pas les mécaniques de tout ça.
Ouais.
C'est ça qui est particulier. On parle, nous autres, avec des Américains qui ont pourtant des bonnes études, puis tu parles de tarifs, ils comprennent pas. Tu parles de toute là, la portion, là, justement, Iran, tout ce qui se passe, eux autres, c'est normal. Puis comment ça se fait que mon baril de pétrole augmente?
On ne comprend pas tout ça.
Il n'y a aucune ouverture au niveau du monde. Donc, quand vient le temps de ce type de scénario-là, ils pensent que... Il n'y a rien qui va bouger, mais la réalité concrète, c'est un écosystème, tout ça. Là. Fait que c'est vraiment particulier de voir les incompréhensions vis-à-vis de la situation.
Oui. Jean-Philippe Deveau, ça a été un plaisir et je vous souhaite les prochains mois, je vous les souhaite à la hauteur de ce que vous voulez chez Canadel comme président de la Chambre de commerce et d'industrie. Encore une fois, merci. Puis, on se reverra à l'automne, certainement, pour voir où on en est.
Bien, merci beaucoup. Puis
merci.
Je souhaite un bon été à tous vos auditeurs.
Vous venez d'entendre une entrevue réalisée en collaboration avec Initiative de journalisme local.